En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques a organisé un colloque international sur le thème de la guerre et de la société. Le 17 et le 19 janvier 2013, grâce au soutien de la Fondation Simone Cino del Duca, abritée au sein de l'Institut de France. Une vingtaine de participants se sont réunis autour du thème spécifique de la guerre et de la politique, le premier volet d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui durera 3 ans. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication du médiéviste Philippe Contamine, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Son intervention s'intitule « La guerre féodale ».
Merci, Monsieur le Président. Donc, la guerre féodale, vous le verrez, je m'intéresse avant tout à l'espace français, 10e, 12e siècle. Je partirai de la définition de Marc Bloch dans son livre « La société féodale », un livre de 1939, justement célébré, encore de moins en moins cité et sans doute de moins en moins lu. Alors voilà les 6 caractères de la société féodale pour Marc Bloch. Suggestion paysanne. À la place du salaire généralement impossible, large emploi de la tenure service, qui est le fief. Suprématie d'une classe de guerriers spécialisés. Lien d'obéissance et de protection qui attache l'homme à l'homme, et dans cette classe guerrière revêtent la forme de la vassalité. Fragmentation des pouvoirs, générateur de désordre, non pas d'anarchie, de désordre. Et au milieu de tout cela, c'est le dernier point, survivance d'autres modes de groupement, parenté et État, dont le dernier devait, durant le second âge féodal, reprendre une vigueur nouvelle. Quels sont les traits fondamentaux de la féodalité européenne, selon Marc Bloch. Deuxième âge féodal. Vous avez remarqué qu'il y a un deuxième âge féodal. Bon, effectivement. Et donc, pour Marc Bloch, on peut en discuter. Il y a un premier âge féodal qui commence au courant du Xe siècle, dans les premières décennies du Xe siècle, qui s'arrête vers 1070-1080. Et puis un deuxième âge féodal qui s'arrête, selon Marc Bloch, vers 1200-1220-1230. Il faut bien reconnaître que cette définition a un côté un peu arbitraire. Après tout, plusieurs de ces traits survivent à l'année 1200, même très largement. Jusqu'à la Révolution française, il y a eu des fiefs, il y a eu des vassaux, la suggestion paysanne n'a pas brusquement disparu, etc. Mais enfin, je pense qu'il convient, pour mieux cerner le problème, de se limiter à la période 10e-12e siècle. Cette société qu'on a qualifiée couramment de féodale, en prenant, disons, pour la définir, un aspect de cette société. Après tout, on aurait pu en choisir d'autres. Et si l'on avait demandé à un intellectuel contemporain, par exemple, de Philippe Auguste, vers 1200, Pierre Le Chantre, de définir la société où il se trouvait, il ne l'aurait sûrement pas qualifié de féodale. Il l'aurait qualifié sans doute de société chrétienne, vivant sous la loi chrétienne, avec une division tripartite qui est assez répandue, en tout cas auprès des intellectuels, la fameuse division entre ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, l'idéologie du féodalisme, selon la formule de Georges Duby. Le premier point sur lequel je vais m'interroger, c'est le suivant. Quelle autorité, au singulier, au pluriel, était alors susceptible de faire la guerre? Juste cet bel homme, comme on l'a rappelé le premier jour, à la fois en droit et en fait. À la grande époque carolingienne, il faut y revenir, seuls les empereurs ou les rois, quand ils n'étaient pas empereurs, menaient la guerre, faisaient la guerre, ou la faisaient mener par l'intermédiaire de leurs délégués, de leurs subordonnés officiels, notamment les comtes, accessoirement les évêques, les abbés. L'espace carolingien, en effet, était systématiquement divisé en pagies, en pays à la tête desquels se trouvaient des comtes, des comites, des compagnons, terme hérité du bas-empire. Telle était du moins la situation dominante dans l'espace correspondant à la France actuelle, Bretagne exclue. Or, un siècle et demi après, disons, on passe à ce moment-là au milieu du Xe siècle, la situation a profondément changé. Certes, il y a toujours un Rex Francorum, dont l'autorité théorique s'étend à toute la Francia occidentalis, Neustrie, Austrasie, Bourgogne, Aquitaine, limitée à l'ouest et à l'est par les fameuses quatre rivières et par l'océan, mais des magnats en grand nombre, aussi riches que puissants, détenteurs dans leur domaine et dans leurs bienfaits d'une position pratiquement héréditaire, faisaient régulièrement la guerre pour leur propre compte, soit entre eux, soit même entre eux et le roi. Comment en est-on arrivé là ? Comment en était-on arrivé là ? Car enfin, l'unité territoriale carolingienne semblait reposer sur une base idéologique, culturelle, solide, incontestée, le christianisme, avec l'Église, une Église puissante, pour garantir cette idéologie, cette culture, plus le modèle non négligeable, on s'est beaucoup interrogé à ce sujet, de l'héritage romain, de la Rome antique. Cette unité reposait aussi sur une base législative, administrative, les capitulaires, et même sur une certaine unité économique, exprimée par exemple par le denier d'argent qui courait identique à travers l'Empire. En principe, le monde carolingien avait un pôle, un centre, le palais, même s'il existait plusieurs palais et même si les souverains carolingiens allaient de l'un à l'autre, connaissaient des assemblées générales à vocation militaire ou politique régulière. Les historiens apportent pour expliquer cette fragmentation de multiples explications. Quelles explications ? C'est un fait massif. Cette fragmentation me paraît être un fait massif. Non pas peut-être unique dans les annales de l'humanité, mais quand même massif. L'éclatement, le morcellement, la segmentation d'un espace réputé indifférencié, homogène. Alors, comment est-ce qu'il explique en premier lieu le caractère patrimonial du pouvoir ? En sorte qu'à l'intérieur de la famille carolingienne, il fallait bien que chaque membre, masculin en tout cas, ait sa part de bien foncier, de villé. Ensuite, l'incapacité, au moins relative, des souverains carolingiens à repousser les assauts venus de l'extérieur, la seconde vague d'invasion, les Vikings, les Normands, les Hongrois, les Vikings, les Sarrasins, les Hongrois, qui ne manquèrent pas d'ébranler un édifice dont l'ampleur dissimulait la fragilité. En troisième lieu, l'obligation où se trouvaient les Carolingiens, en fonction, je dirais, d'une certaine disposition mentale et en raison d'un manque de liquidité, de rémunérer leurs hauts fonctionnaires, les comtes, disons, par des dons, par de l'argent, mais par des dons de terres publiques, relevant du fisc. Et donc ces comtes ont été rémunérés de cette façon et ils ont considéré ces bienfaits comme héréditaires, s'ajoutant à leur propre fortune personnelle. Et aussi, quatrième explication, l'introduction entre les Carolingiens et les magnats, les procérès, de la vassalité par lesquels ces magnats promettaient, par un lien fort, par un lien vivant, de fidélité personnelle, de servir dans la guerre et dans la paix leur empereur, leur roi, leur seigneur. lequel s'engageait en contrepartie à les respecter, comme s'il s'agissait, dans une certaine mesure, d'un engagement contractuel de puissance à puissance. Le souverain carolingien ne pouvait pas traiter n'importe comment ses comtes, ses compagnons, qui constituaient son entourage, son milieu naturel, sur lesquels il pouvait compter. Peut-être y est-il également, on s'interroge à ce sujet, une certaine reprise démographique affectant les élites et par conséquent un certain morcellement successoral en raison même de cette reprise démographique. Georges Duby a suggéré encore une autre hypothèse. Il y avait à l'époque carolingienne et déjà avant, disons, toute une classe dont il convenait de canaliser l'impulsivité guerrière en la dirigeant vers l'extérieur. D'où l'extension impressionnante de l'espace franc. Mais il arriva un moment, premier quart du IXe siècle, où cette expansion s'arrêta, en sorte que la violence propre à ce milieu, à ces pugnatoresses, à ces bellatoresses, se retourna vers l'intérieur. Elle prit un caractère endogène. Faute de pouvoir faire la guerre vers l'extérieur, eh bien, ils ont fait ça vers l'intérieur. Faute d'exporter la guerre aux frontières, eh bien, on la fit sévir à l'intérieur. On peut supposer que les souverains carolingiens qui étaient censés avoir entendu parler du De re militari de Végès, fin du IVe siècle, parce que ce traité existait dans leur bibliothèque, en tout cas on en a quelques témoignages, auraient idéalement préféré, comme leurs prédécesseurs romains, disposer de légions numérotées, la première légion, la deuxième légion, au moyen d'une solde et de sesterces pour les rémunérer, logés dans des casernes, disponibles à volonté, et tout cela payé par l'impôt public. Mais, d'une part, les souverains carolingiens ne disposaient pas de ressources pécuniaires suffisantes à la hauteur, et d'autre part, et surtout, leur aristocratie supérieure ou inférieure, qui formaient leur classe de gouvernement au sens large, voyaient les choses différemment. Les armées carolingiennes étaient principalement formées de contingents commandés par les comtes et constitués par le service d'hoste de tous ceux qui étaient astreints en fonction de leurs biens fonciers à tel ou tel service. Je n'entre pas dans le détail, mais enfin on voit très bien comment, à partir du moment où on a 12 manses, eh bien, il fallait servir avec une armure, et puis à partir du moment où il y avait 4 manses, il fallait servir avec un cheval, et il fallait, pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois, s'entretenir soi-même et ne pas tout attendre du souverain carolingien qui faisait allusion pour rassembler cette armée et la mettre en branle à la fidélité qui se reposait sur la fidélité de ses vassaux ou de ses comtes. Il importe de souligner que même sur le long terme, ce morcellement fut pensé par certains comme un échec et non comme un phénomène d'adaptation éventuellement bénéfique à l'évolution naturelle des choses. Ainsi ne peut-on exclure, au cours des temps féodaux, la volonté de la part des rois, de leur entourage, notamment clérical, de remédier à une situation de facto dont ils ne pouvaient pas, en droit, se satisfaire. Le souvenir des temps anciens, des temps de l'unité, ne fut pas oublié, en sorte que le recul de la segmentation féodale fut perçu comme un retour à la norme, rien de comparable au mouvement censé être en cours, faisant passer de l'Europe des nations à l'Europe en tant qu'instance politique souveraine, car dans ce cas, la référence ne se trouve pas dans le passé, mais dans l'avenir. Voilà pour le temps carolingien. Surtout depuis un demi-siècle, 1950-1960, la recherche menée conjointement par des historiens et par des archéologues, en se servant de tous les documents disponibles, a abouti à ce que, à la conclusion qu'à partir du milieu du Xe siècle, on a assisté, dans l'espace français, à une multiplication des châteaux, des constructions plus ou moins rudimentaires ou élaborées, recourant d'abord à la terre et au bois, puis à la pierre éventuellement taillée, la brique intervenant plus tard. Au blanc manteau d'église, célébré par Raoul Glaber dans une chronique du XIe siècle, vers 1030, ont répondu et correspondu, selon la formule de mon jeune collègue Joseph Morcel, un brun manteau de motte castrale et un blanc manteau de château en pierre. Ce bâti multiple, il fallait le construire, l'entretenir, ça l'a représenté un certain coût. Cela exigeait de la main-d'œuvre, des compétences. Le fait est incontestable, même s'il est plus délicat de proposer une chronologie fine et une géographie précise, en tout cas au niveau local. Ce mouvement de multiplication des châteaux, pour employer le terme le plus souvent, plus courant, château fort, comme on dit banalement, du reste, ne s'est pas arrêté en 1200, il s'est poursuivi, si bien que c'est peut-être vers 1400 qu'il y a eu le plus de châteaux forts, de maisons fortes à travers l'espace français. Revenons à l'an 1000, et autour de cette date, l'an 1000, charnière, repère. Dès le premier quart du XIe siècle, on repère des mottes castrales dans l'ensemble du royaume de France, de la Flandre à la Genêt, de la Champagne à la Bourgogne. Et quelques textes, je n'y insiste pas, décrivent ces mottes, leur agencement, etc., comme si, quelques textes contemporains, comme si on avait besoin malgré tout d'expliquer de quoi il s'agissait. Bien. Voilà pour la motte castrale. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu le château de pierre. Je n'insiste pas. Ces castras, ces castella, ces munitionnes de nature et d'importance diverses, qui les édifiaient? Bien sûr, les rois, les comtes, s'estimant détenteurs de la puissance publique, les évêques, en vertu de leur privilège d'immunité, mais aussi, de façon théoriquement illégale, des personnages placés plus bas dans la hiérarchie politique, économique et sociale. Peut-être même des aventuriers, des hommes nouveaux, on en discute. Cela allait aboutir à l'émergence, là encore à des dates variables, mais le fait est incontestable, des seigneurs châtelains, des châtelnies. Le château, symbole visible du nouveau pouvoir, je cite un des auteurs auxquels je me réfère. Entre 950 et 1190, là encore c'est une citation, selon les régions, l'expression territoriale de l'emprise du château a remplacé toute autre distinction dans la conscience collective. La châtelnie, ce serait pour les gens du temps la circonscription majeure, plus importante que le comté, plus importante que la paroisse, plus importante que le royaume, plus importante que le diocèse. Les gens se sentaient ou se seraient sentis avant tout d'un château, d'une châtellenie. Mais alors, ces châteaux, pourquoi faire? Ici, deux théories s'opposent, parfois abruptement, parfois non sans de sérieuses nuances, et je vais les énumérer successivement en forçant volontairement le trait. Pour une première théorie, actuellement en position dominante, dans l'historiographie française la plus récente, les châteaux sont d'abord un instrument de coercition sociale. Au cours du Xe siècle, je cite André Debord, le monde occidental s'embrase dans un vaste et brutal affrontement entre l'aristocratie et la paysannerie indépendante. En simplifiant, de libre, à l'époque carolingienne, plus ou moins, cette paysannerie devint serf. Les châteaux, je cite un autre auteur, Joseph Morcel, déjà mentionnés, étaient foncièrement des lieux d'habitation, des centres d'exploitation agricole et artisanale, et le point nodal d'un ensemble complexe de droits seigneuriaux. La fortification servait surtout à protéger le groupe domestique qui y résidait contre des agressions et des coups de main. Agressions venant de qui ? Coups de main venant de qui ? On ne sait pas trop. En même temps que de manifester la manifestation d'un statut social particulier. Bref, le château fut le fondement de la seigneurie châtelaine, de la seigneurie banale, comme on disait dans ma jeunesse, au profit d'un seigneur et de son entourage guerrier, d'une masse, un encadrement d'une masse de dépendants qui devait au seigneur en question des corvées, des redevances en nature et en espace, en espèces, le paiement d'amendes de justice, une compensation pécuniaire pour transmettre ses biens ou se marier à leur guise, etc. Il y avait, je n'insiste pas, le moulin banal, le four banal, le pressoir banal, le taureau banal, et j'en passe. Je reviens à Joseph Marcel. La multiplication des tours maçonnées sur des sites nouveaux doit être considérée comme le corollaire d'une multiplication de cellules productives nouvelles. Chaque famille, non seulement de la grande, mais de la petite aristocratie, en vint à posséder son château, dont elle tirait son nom, qui était son point de référence. Aristocratie liée au château. On parle à ce moment-là de topolignée. L'aristocratie carolingienne n'était pas implantée, n'était pas enracinée. Elle se déplaçait à travers l'immense espace carolingien. À partir de l'époque féodale, le seigneur se tient peinard dans son château pour maîtriser les populations, pour prélever le plus possible sur la force de travail et la production des dépendants, essentiellement des paysans. La chasse seigneuriale n'était pas seulement une distraction, un solace, un déduit, comme on aurait dit à la fin du Moyen-Âge. Elle ne visait pas à se procurer du gibier, elle était l'expression monopolistique d'une domination territoriale. Donc cette idée dominante, en tout cas pour une partie de l'historiographie française, est assez répandue, profondément répandue. Il faut ajouter que les magnats, les procéres, les principes, les divitesses, les comtes, les sires, les barons, les châtelains n'étaient pas seuls et autour d'eux figuraient de plus en plus présents dans la documentation, dans les chartes, dans les chroniques aussi, mais dans les chartes, des personnages qualifiés en latin de milites, en l'ensemble vulgaire de chevalier. Ici, les choses peut-être deviennent plus compliquées. En effet, le mot militia, à l'époque carolingienne, désigne avant tout l'office, le service dont sont chargés les membres de l'aristocratie laïque, sorte d'office, de service à caractère guerrier, mais pas uniquement guerrier. En revanche, à partir de l'an 1000, le terme militia désigne un ensemble d'hommes en armes, une armée, une troupe, l'entourage d'un sire, et aussi une valeur à acquérir. Militia, ça veut dire également l'adoubement. Donc c'est une valeur de reconnaissance sociale et professionnelle, tous les membres de l'aristocratie sont appelés à revendiquer cette valeur par un rite qu'on appelle l'adoubement. La conclusion de tout cela, c'est la première thèse, le nouvel ordre social et économique se met en place et se perpétue par les châteaux, par les chevaliers. Les châteaux rappellent concrètement, quotidiennement, aux dépendants, aux rusticis, que là se trouve la force, toute prête à agir, à surgir en cas de révolte ouverte ou de résistance passive. Les chevaliers constituent le bras armé des châtelains, la forme fondamentale de la guerre féodale. N'est-ce pas cette violence au quotidien qui a donné naissance à ce que mon collègue Robert Fossier appelle l'enchâtellement, la traduction d'incastellamentum en latin. À cette théorie, que j'ai résumée à grands traits, théorie impressionnante par sa cohérence, décapante par son réalisme, des objections, malgré tout, peuvent être opposées. Première objection, la domination sur une paysannerie asservie ne passe pas nécessairement par l'existence du château. L'époque carolingienne connut de très lourdes corvées auxquelles les non-libres étaient astreints, bien avant la multiplication des châteaux. L'Angleterre des XIIe, XIIIe siècles connut ce qu'on appelle le manoir, l'équivalent de la seigneurie continentale, le villenage, les bondmen, les nativis, l'équivalent des serfs continentaux, mais le manoir ne comportait pas nécessairement un château, ni même une maison forte. Des évêques, des abbés détenaient quantité de manoirs, l'évêque de Winchester et bien d'autres, qui étaient architecturalement de simples exploitations agricoles, avec au mieux des maisons de maîtres. Et les châteaux en Angleterre me paraissent répondre d'abord à des objectifs franchement militaires. Songeons aussi à l'installation du servage en Europe orientale et en Russie, à partir du XVIe siècle, il n'y a pas de château. Bon, donc il n'y a pas le lien nécessaire entre le château et puis l'asservissement des populations de paysans. Deuxièmement, il faut le dire, les sources narratives font largement défaut pour décrire le processus concret par lequel des sires, des châtelains avec leur horde sauvage, de chevaliers, auraient mis au pas leurs dépendants, auraient transformé, rabaissé leurs conditions juridiques et leur auraient imposé leur autorité. Il s'agit donc, dans une très large mesure, d'une reconstruction des historiens à partir d'indications très fragmentaires, d'un processus qu'on voit mal à l'œuvre, qu'on ne voit guère à l'œuvre. Alors on dira évidemment, après tout, pourquoi ce processus aurait-il été raconté. Mais enfin, il faut le constater. Il y a bien des mentions de jacquerie, la Normandie vers l'an 1000, mais excessivement rares. On voit des châteaux régulièrement détruits, rasés, démantelés par des rois, des princes, d'autres châtelains, mais par des paysans en fureur, non. On ne voit pratiquement pas, sauf en 1358, au moment de la jacquerie, mais dans un tout autre contexte. Le meurtre de seigneurs par des paysans en embuscade dans la forêt existait, mais là encore, il est relativement rare. Autrement dit, si vous voulez, le témoignage narratif du terrorisme seigneurial, comme on l'a expliqué, eh bien, il n'y a pas beaucoup de répondants, ni dans l'événement, ni dans les récits. Il existe d'assez nombreux actes, en revanche, par lesquels les princes territoriaux interdisent la construction de châteaux illicites sans qu'ils aient songé à en édifier pour eux-mêmes à la même place. Dans le château, l'habitat s'est fortifié au point de devenir une machine de guerre, tout autant qu'un centre de résidence pour les guerriers. Autrement dit, à mon avis, c'est là ma thèse, je crois que la identification du château à un mécanisme d'oppression sociale n'est pas à exclure, mais il y a au moins une ambivalence du château. Le château, les chevaliers existent, il faut en convenir, je les ai rencontrés à chaque instant, mais on est amené, en un certain sens, à revenir l'explication traditionnelle, naïve, l'explication romantique, un petit peu, et pour ça, c'est parce qu'elle est romantique, aujourd'hui, elle est écartée, les châteaux seraient également, disons, le résultat d'épisodes proprement guerriers, en raison de la multiplicité des cellules politiques, que ces cellules politiques se situent au niveau des royaumes, des principautés, des comtés, des châtellenies et peut-être même plus bas. Donc il y a, à mon avis, disons, une lecture à proposer, à reproposer, redonnant au château leur destination d'abord militaire. Les exemples de la fonction militaire des châteaux ne manquent pas, de véritables politiques castrales menées par les puissants. Regardons par exemple le long de la vallée de la Meuse et de la Moselle, entre le comté de Bar, l'évêché de Metz, le duché de Lorraine, il y a un château qui répond à un autre château, la frontière de l'Epte, entre le domaine capétien et le domaine anglo-normand. Les châteaux se répondent, là encore, l'un contre l'autre. Et cela aboutit à Château-Gaillard. Château-Gaillard, édifié par Richard Ier à la fin du XIIe siècle, n'est pas là pour asservir la population des Anglais, mais pour s'opposer aux entreprises de Philippe Auguste, entre Bourgogne et Champagne. Bref, je propose de ne pas exclure du champ des recherches et des réflexions l'histoire militaire pratiquement occultée par les tenants de la thèse de l'enchâtellement. Relire en ce sens les chroniqueurs du temps, Adhébard de Chabannes, Guillaume de Poitiers, Orderic Vital, toutes les chroniques anglo-normandes du XIIe siècle qui sont si précises. Relire Sujet, relire Gisbert de Bons à la fin du XIIe siècle, dont donc, des exemples seront proposés dans le texte écrit. Je passe pour des raisons de temps. Et donc, je m'aperçois du reste que cette historiographie française dominante est très éloignée, d'une autre lecture qui est qu'on rencontre dans l'historiographie anglaise, et en particulier, justement, pour l'époque féodale. Je songe au livre de Matthew Strickland, War on Chivalry, aux travaux The Conduct and Perception of War in England and Normandy, entre 1066 et 1219. Je me sers également de Marjorie Chibnall, de John Gillingham, etc., qui restitue la dimension militaire de tous ces événements et de ce phénomène castral. Ils approchent la guerre de façon tout à fait différente, en se posant en particulier le problème des lois de la guerre vis-à-vis des vaincus qui est concerné par cela, du code de la chevalerie et des rapports entre la chevalerie, la courtoisie, la guerre, etc. Et c'est là qu'intervient le problème de la paix et de la trêve de Dieu, apparu à l'extrême fin du Xe, et ce développement par la suite en plusieurs générations, et qui est l'une des sources du jus in bello dont on nous a parlé le premier jour. C'est une source parmi d'autres. Et donc là, il me semble que la paix et la trêve de Dieu ne collent assez mal avec la thèse mentionnée précédemment, qui, encore une fois, est une thèse aujourd'hui extrêmement répandue, que je propose simplement de mettre en question. Alors, il y a un petit développement également, mais je ne le dirai pas faute de temps, sur le Japon comme point de comparaison. Et j'en arrive à ma conclusion, en un petit nombre de points. Si la théorie de l'enchâtellement est juste, si l'enchâtellement est le résultat direct de la violence armée, de la conflictualité, comme le dit Jean Béchler, et si la violence armée est une forme authentique de guerre, alors la guerre est bien le fondement de la société féodale en son cœur du Xe au XIIe siècle. Féodale ou féodo-seigneuriale. La guerre est bien le fondement du féodalisme. Il n'en va autrement si l'on estime que cette production du féodalisme est un phénomène de longue durée, visible dès l'époque carolingienne, un phénomène qui est loin d'être mécaniquement, automatiquement lié à la multiplication des châteaux et des chevaliers, et si l'on estime, et c'est là le cœur peut-être de ma réflexion, que la domination sociale, même rude, même brutale, même répétée, est un phénomène distinct de la guerre. Certes, comment nier que durant les siècles féodaux, la guerre ne soit omniprésente ? Dans la réalité, comme dans l'imaginaire social, elle imprègne les mentalités, elle est considérée comme faisant partie, depuis la chute, de l'ordre des choses, de l'ordre du monde, fruit détestable, diabolique, des passions humaines. Elle est, au sens théologique du terme, un fléau. Mais ces mêmes siècles, je songe surtout au XIIe, au grand XIIe siècle, ont bien d'autres aspects tout aussi structurants. Cantonner Saint-Bernard dans son rôle de fondateur de l'idéologie templière serait par trop réducteur. Dernière remarque, enfin, la classe féodale française, rivée à ses châteaux, où elle se tient au milieu de sa ménie, dont elle tire sa substance, dont elle est censée tirer sa substance, sa force et sa nature, n'hésite pas, cependant, cela est contradictoire avec la théorie de l'enchâtellement, à se lancer dans l'aventure lointaine, loin de ses bases, sans que son absence provoque le soulèvement des rustres, la conquête de l'Angleterre, la participation à la Reconquista espagnole, la conquête de l'Italie du Sud et, bien sûr, la croisade. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Philippe Contamine, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la guerre féodale, lors du colloque international « Guerre et politique » de l'Académie des sciences morales et politiques, initié par l'académicien Jean Béchler. C'était le 18 janvier 2013 à la Fondation Simone et Cino del Duca. Retrouvez sur Canal Académie déjà certaines communications des intervenants et prochainement l'ensemble des interventions de cet exceptionnel colloque international sur Canal Académie.